cause une très très grosse polémique. Le Premier ministre français Édouard Philippe a donné pour consigne aux membres de son gouvernement de bannir des textes officiels l'écriture inclusive. De quoi s'agit-il exactement? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Marc Wilmet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grammairien, membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Alors, on va d'abord poser le débat. C'est quoi exactement l'écriture inclusive?
Vous faites bien de demander une précision, parce qu'il y a une ambiguïté, justement. Qui dit écriture dit évidemment graphisme. Il y a donc une écriture qui appartient à la langue écrite et qui développe un arsenal de signes spéciaux qui sont destinés à assurer la visibilité des femmes. Donc ces signes, ce sont les parenthèses, les barres obliques, les points, notamment le point médian. C'est donc une batterie de signes assez lourde, et ce sont des signes qu'on ne dit pas. Donc, qui crée un écart entre ce qui est écrit et ce qui est entendu. Qui complique aussi, et ça c'est un élément du débat, qui complique la rédaction, l'apprentissage pour les jeunes. Mais, l'ambiguïté dont je parlais, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus dans les écritures inclusives, on entend l'accord par proximité. Je vous donne un exemple. Pierre et Marie sont belles ou sont intelligentes. Et là, ce n'est plus de la langue écrite. C'est vraiment de la langue parlée. C'est la langue elle-même qui est remise en question. Je ne dis pas en cause.
On refuse que le masculin l'emporte sur le féminin.
Oui, voilà, c'est la vieille formule qui a été beaucoup critiquée parce que d'abord, elle n'est pas comprise comme il faudrait la comprendre. Ça ne veut pas dire que le mâle l'emporte sur la femelle, n'est-ce pas? Ça veut dire que le genre masculin l'emporte grammaticalement sur le genre féminin. Mais j'accorde aux féministes, dont par ailleurs je suis, je vous le dirai, j'accorde un certain malaise devant cette formule. Mais un malaise qu'on a exagéré, mais on peut modifier la formule sans pour autant modifier ce qu'elle décrit.
Est-ce que l'on a un effort particulier à faire dans la féminisation de notre langue?
Écoutez, cet effort, et vous, j'entendais que vous parliez du gouvernement français, mais cet effort, nous l'avons initié dans des temps déjà anciens, puisqu'en 1993, dans mon académie, par exemple, il y a eu des réflexions, des communications, j'en ai fait une, sur la féminisation des titres, professions et fonctions. C'est aussi une préoccupation du Conseil de la langue française et de la politique linguistique en Belgique, qui a une commission de féminisation. Alors, de quoi s'agissait-il? Je pourrais vous dire, donner ici une anecdote, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Académie française, mais nous avons été en conflit à l'Académie avec l'Académie française.
Mais j'ai l'impression que tout le monde est en conflit avec l'Académie française. Les Québécois sont en conflit avec l'Académie française, les Suisses, nous.
Mais oui, en conflit. Moi, je vous parle d'une époque où c'était Maurice Druon qui était secrétaire perpétuel. Et vous connaissez peut-être le personnage. Il a laissé certains souvenirs. C'est lui qui était opposé à l'élection de Marguerite Yourcenar parce que, disait-il, nous aurions bientôt une quarantaine de bonnes femmes qui font du tricot pendant les séances du dictionnaire. Donc nous n'avons pas voulu participer à la croisade qu'il voulait initier contre la féminisation des titres, professions et fonctions, en lui opposant d'ailleurs, ce à quoi le vieux gaulliste qu'il était ne pouvait pas répondre, l'exemple du général de Gaulle qui s'adressait à ses compatriotes par française, français. Donc il y a un effort à faire et cet effort a été fait déjà. Et cet effort concerne la féminisation des titres.
Alors nous, en Belgique, tout comme les Québécois ou les Suisses, est-ce qu'on est autonome par rapport à la France sur les règles d'usage de la langue française?
Écoutez, c'est notre langue. Ce n'est pas pour nous, en Belgique française, disons, ce n'est pas une langue étrangère qu'on aurait importée chez nous. Donc, évidemment, il y a un certain malaise parfois des Belges qui ne veulent pas se singulariser par rapport aux Français. Mais ici, en l'occurrence, les Français et nous sommes sur la même ligne. Il y a eu en France des directives pour la féminisation. Mais l'Académie française, puisqu'on en parlait, il résiste. Sa secrétaire perpétuelle continue à vouloir s'entendre donner le titre de madame le secrétaire perpétuel. Elle parle des femmes de l'Académie en disant « mes confrères ». Alors vous voyez, ils sont mal placés pour donner des leçons. Mais ça s'explique, c'est parce qu'à l'Académie française, vous disiez qu'on s'en moquait. Mais à l'Académie française, il n'y a pas de linguiste. Le dernier linguiste, un philologue, de l'Académie française s'appelait Gaston Paris, est mort en 1903. Et on comprend qu'on n'ait pas, lui ait pas donné de successeur parce qu'il disait que la langue, c'était pas, c'était une affaire de spécialistes, donc de linguistes, de correcteurs, etc., et pas d'écrivains, de poètes ou d'essayistes.
Alors l'usage des langues est lié à la société dans laquelle on est au Québec. On est très très féministe, donc ça a beaucoup évolué dans ce sens-là. Moi j'ai une question subsidiaire, on a 30 secondes, dans l'évolution des langues. Pourquoi chez nous en Belgique on dit 90-70 et puis en France on dit 80? Je me suis toujours posé cette question, 90, et puis en Suisse on rajoute 80, enfin...
C'est autre chose, mais en fait c'est le système décimal. Nous sommes... Mais les Suisses sont encore plus proches que nous du système décimal. En fait, l'usage de 70 et 90 est un usage non pas français, parce que dans la province française, ils comptaient décimalement, c'est un usage parisien. Si vous pensez à l'hôpital des 15-20, par exemple, dont Villon disait déjà au 15e siècle, autant vaudrait les appeler 300.
Merci.